La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
Nous allons continuer aujourd'hui à fouiner dans ce que nous avons découvert en recherchant des choses peu connues dont nous avions entendu parler. C'était déjà le thème de la précédente émission. Voici le volume 2.
Volume 2, des raretés.
Des curiosités. Et nous commençons par un musicien alors très peu connu, saxophoniste ténor de son état, qui s'appelait...
Allen Eager. Alors celui-là, c'est un drôle de type. D'accord ? Il est saxo-ténor, et ça tu vas en parler. Mais par contre, il a des à-côtés tout à fait amusants, qui n'ont rien à voir avec la musique, puisqu'il est aussi professeur de ski, professeur d'équitation, et il fait des courses d'auto.
Ben oui, et puis il y a consacré une partie non négligeable de sa vie, puisque c'est devenu son gagne-pain, ces activités-là. Je ne sais pas très bien comment il a pu marier ça avec une carrière musicale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est tellement pointillée, cette carrière. Mais alors quand même, il a laissé une trace enregistrée intéressante. Au point de vue musique, c'était un disciple de Lester Young. Il était complètement fou du saxophoniste ténor Lester Young, le fameux. Et sa carrière était marquée au coin d'une énorme curiosité musicale, puisqu'il a enregistré dans des choses qu'on connaît pas toutes d'ailleurs, mais on l'a retrouvé chez Frank Zappa.
C'est assez étonnant. C'est vous dire que même en musique, c'était franchement un original qui allait toujours chercher des choses que les autres n'allaient pas chercher.
Peut-être entre un concours de jumping et je ne sais quel rallye, il a atterri chez Frank Zappa. Mais on ne sait pas, de toute façon.
D'ailleurs, le morceau que nous allons vous passer est très emblématique, au moins quant à son titre, de cet homme-là, puisque c'est Rampage.
Oui, plutôt remont, le garçon.
Oui, Rampage, ça veut dire « Oh là là, c'est la folie. Je me déchaîne. »
Je me démène. À la limite, j'agresse. Bref, j'ai la rage.
Thank you.
Voici maintenant des New-Yorkais peu connus, le pianiste Sammy Benskin. C'était son trio d'ailleurs.
C'est vous dire justement que quelquefois on ne sait presque rien sur eux parce qu'ils sont peu connus.
Oui, puis c'est des gens qui ont vécu une carrière musicale assez banale avec une notoriété jazzistique à des époques très fastes. Et là, quand même, le batteur, c'est un grand batteur. Il s'appelle Spex Powell. C'est un grand batteur, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu comme d'autres grands batteurs ? Eh bien, simplement parce que son choix de vie, ça a été d'être musicien de studio pour accompagner tout ce qu'on lui disait de faire.
C'est très américain, ça. Beaucoup, beaucoup de musiciens américains que nous avons rencontrés n'avaient pas du tout le cloisonnement qu'on a en France, où quand on est musicien de jazz, on ne fait pas autre chose. Eux, ils étaient musiciens tout court. Et si on leur proposait quelque chose avec de la variété, ok.
Le problème avec Spex Powell, c'est qu'il s'est un petit peu noyé dans ce système-là et qu'au point de vue de jazz, il n'a jamais eu la notoriété qu'il aurait pu avoir. Mais, nous les avons retrouvés, Spex Powell, au coin des sillons où vous allez entendre. Et quand même, on va dire une chose. Nous avons le même à Saint-Flour. Il est maintenant très âgé et je pense qu'il a totalement arrêté de jouer. Mais on l'a bien connu il y a pas mal de temps. C'est un guitariste nommé Georges Mégalos. Ce Georges Mégalos, il a passé sa vie, avant de prendre sa retraite dans le Cantal, il a passé sa vie dans les studios. C'est un grand jazzman. Et comme jazzman, il est très peu connu à cause de ça. C'est exactement le même schéma.
Ce que nous allons vous faire entendre, c'est « The world is waiting for sunrise ». Traduction, « Le monde attend le lever du soleil ». Et vu la date à laquelle ça a été enregistré, alors que le morceau, lui, date de bien avant, c'est assez emblématique puisque c'est la fin de la guerre mondiale. Thank you.
pianiste à l'autre, nous voilà maintenant dans le blues.
Oui, avec Bob Cole.
Bob Cole, Bob Cole, je peux te dire que tu peux toujours chercher dans les dictionnaires ou les encyclopédies, on va pas trouver beaucoup de traces, sauf chez le père Panassier, mais lui, il savait tout, alors de toute façon. Bob Cole était donc un pianiste de blues. C'était un Texan, je crois me rappeler. Et il est naturellement venu à Chicago, qui drainait à l'époque tout ce qui était en capacité de faire du blues.
Et puis, il y a eu la crise de 1929. Et là, on perd franchement sa trace.
Ah, complètement.
Jusqu'au jour où il réapparaît d'une drôle de façon. Il est devenu professeur de jazz dans les écoles de musique. Et là, il éclate totalement parce que tout le monde dit « c'est un pédagogue extraordinaire ».
Là, il y a des témoignages là-dessus. C'est extraordinaire cette faculté de ressortir du néant qu'avait Bob Cole. Et alors, naturellement, à côté de son travail de professeur, il faut dire d'ailleurs qu'il avait été auparavant élève dans l'école de musique où il est devenu professeur. Élève spontané en quelque sorte. Tiens, je vais aller apprendre le... C'est un formidable pianiste de blues. Tiens, je vais aller apprendre le piano. C'est étonnant comme démarche. Ouais. Et alors, parallèlement à ça, il a monté un petit groupement, nous dirions ici, un orchestre de baluche à la limite. Hein. Et ce petit groupement a laissé une micro-trace enregistrée sur laquelle nous avons mis la main et nous ne l'avons pas regretté.
Voici donc House Party Groove.
Sous le nom non pas de Bob Cole, puisqu'il s'en foutait complètement, sous le nom de Nature Boy Brown. Étonnant, non ? Tu sais qu'après la crise de 1929, les premiers orchestres qui ont commencé à ressurgir, de manière générale, étaient menés par des chanteurs.
C'était la mode.
Et oui, la mode avait changé sous l'influence de la radio.
Et oui.
Et donc, on est entré dans une ère qui a mené aux crooners, d'ailleurs.
On en a connu des crooners, même chez Duke Ellington.
Ah oui.
Il avait cette idée que pour plaire à un public, il fallait de temps en temps mettre un crooner.
Et naturellement, pour les amateurs de jazz, c'était odieux.
Un crooner, pour ceux qui, par hasard, ne sauraient pas ce que c'est, c'était le mot américain qui veut dire chanteur de charme. Et alors, c'était souvent sirupeux, hein, faut le dire.
Guimauve, hein. Guimauve, et rue Guimauve.
Alors, c'était curieux, parce que quelquefois, il y avait un orchestre complètement punchy qui y allait, puis tout d'un coup, chanteur de charme arrivait, ça faisait bizarre.
Oui, mais ça faisait vendre.
Mais oui, il y avait des gens qui s'applaisaient, ne contrarions pas.
Hein. Et les années 30 ont été marquées par ce phénomène. Alors là, on n'est pas encore au crooner pur et dur, mais quand même, c'est un chanteur qui a formé cet orchestre. Cet orchestre est intéressant, mais c'est un orchestre mixte.
Quand on dit mixte, attention, ce n'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est des noirs et des blancs.
Oui, là-bas, ça s'appelle...
faut préciser.
Mixte, c'est un mélange qui était à l'époque très très peu toléré. Mais enfin bon, ils ont enregistré sous le nom de Chicago Rhythm Kings. Et l'intérêt de ce disque, me direz-vous, c'est pas le chanteur. Mais non, c'est pas le chanteur. C'est le contrebassiste.
Al Morgan.
Ce Al Morgan, c'était un type de la Nouvelle-Orléans, venu du bon endroit, et qui est certainement un des plus grands bassistes de Nouvelle-Orléans. Il a très peu enregistré, il est peu connu, il y a des types qui ne font pas carrière, hein, comme ça, comme d'autres. Mais il mérite un coup d'oreille, et nous avons retrouvé au fond de lieux obscurs dont nous vous ferons grâce de la découverte, ce disque qui s'appelle...
Margie.
Little Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you, don't forget your promise to me. I have bought a home and ring and everything for Margie. You've been my inspiration, days are never blue. After all is said and done, there is really only one. Oh, Margie, Margie, it's you.
Ça interpelle, hein. Un bassiste comme ça, il tient tout l'orchestre. Vraiment, l'orchestre repose sur lui et on peut voyager tranquille. Hein.
Et j'ai remarqué une bonne rythmique du banjo.
Oui.
Instrument parfois qui peut plomber un orchestre. Et au contraire, là, dans ce cas-là, est-il justement emmené par le bassiste, mais il est très bon.
Merci pour lui. Le trompettiste aussi est pas mal. Et tu remarqueras que l'intervention du crooner est très croonante au début du disque, pour faire vendre, mais que son cœur va plutôt du côté de Louis Armstrong quand on entend sa deuxième intervention.
Oui, il se laisse emporter par le jazz.
Bah, c'était tous des types, au départ, qui étaient venus à cette musique-là par les musiciens noirs venus du sud, dans la région de Chicago. Et maintenant, nous retrouvons un disque très peu connu de quelqu'un que nous avons par contre bien connu.
Et qui était fort connu, lui, par contre.
Ah oui, oui, oui.
C'est-à-dire Buck Clayton, c'était quelqu'un de connu.
Buck Clayton, c'est un notoire de l'histoire du jazz, c'est un trompettiste et arrangeur. Et là, dans le morceau que nous allons entendre, c'est justement lui qui a fait l'arrangement. Il était spécial, ce Buck Clayton, il était...
Oui, il avait une origine qui se lisait sur son visage, car il était assez clair de peau et des yeux verts, mais verts comme ceux d'un chat. C'était étonnant.
Et renseignement pris, il était d'une mère qui était d'origine navajo. Il y a des mélanges comme ça dans le jazz qui sont assez étonnants.
C'était un très bel homme et qu'il savait.
Oui, les Damos, il savait très bien d'ailleurs. Oui. Et ce Buck Clayton, il a eu un problème de lèvres un petit peu sur le tard, vers sa 60e année, un peu plus peut-être. Et il s'est fait opérer. Et heureusement, il a retardé l'opération jusqu'à tourner dans un film mémorable où on le voit très bien jouer. Et où on sent quand même qu'il a un peu mal aux lèvres. Ça se devine quand on a pratiqué quand même. Enfin, ça n'entame pas son jeu plus que ça. Eh bien, l'opération qui devait le remettre en selle a été un échec total. Peut-être parce qu'il a rejoué trop tôt. Je n'ai jamais pu savoir.
Mais il s'est arrêté.
Mais il a dû arrêter la trompette après. Et là, il s'est consacré à l'arrangement. Il a monté un big... Mais ça a très bien marché, l'arrangement. Il regrettait la trompette, bien sûr. Mais il a connu une fin de carrière tout à fait...
Musicale comme arrangeur.
Comme arrangeur. Voici un morceau qui s'appelle...
You can depend on me.
Autrement dit, vous pouvez compter sur moi. Enfin, ici, c'est sur nous, naturellement.
Oui, ça n'arrive pas si souvent, donc on le répète. You can depend on me.
Voilà, et profitez-en bien. Thank you. vois à la fin du morceau, l'art du croonage ne s'est pas perdu en cours de route. Et là, on est dans la mouvance Sinatra, finalement.
C'est relativement banal, il faut dire.
Oui, ça banalise, je trouve, c'est dommage des vocaux comme ça, parce que, bon, ça fait vendre, mais ça banalise tout le talent de l'arrangeur et également du trompettiste, parce que Buckleton joue très très bien dans ce disque. Nous passons à une autre curiosité, elle concerne cette fois-ci un tromboniste qui s'appelait Tommy Dorsey. Tommy Dorsey était un virtuose extraordinaire du trombone, à tel point qu'il a pu se permettre au début de sa carrière, d'ailleurs c'est l'époque où le disque a été enregistré, d'être un des disciples de Jimmy Harrison, qui était un tromboniste techniquement exceptionnel.
Ce Tommy Dorsey, certains musiciens classiques, des trombonistes classiques, sont venus lui demander de leur montrer comment il arrivait à jouer certains morceaux classiques que eux-mêmes n'arrivaient pas à jouer.
Ou difficilement. C'est-à-dire que ces musiciens-là, on les entendait en concert. Alors là, ils profitaient un peu de ce qu'ils avaient glané au point de vue technique chez Tommy Dorsey. Mais au studio, non. Le directeur artistique demandait à Tommy Dorsey et à un autre qui s'appelait Miff Mole, qui était du même tonneau, de venir tenir le trombone pour certaines choses très connues, comme le fameux boléro de Ravel.
Qui est extraordinairement difficile pour un trombone.
Oui, il faut une technique dans l'aigu.
Donc c'est que jazzman, eh bien, il venait faire des petites séances classiques pour les choses très 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 difficiles.
Et il y avait un Français avec eux, tromboniste de jazz également, mais également hyper pointu au point de vue technique, qui s'appelait Léon Vauchamp. Alors évidemment maintenant, le temps a passé et les musiciens classiques ont tellement monté leur niveau grâce aux techniques développées par certains jazzmen d'ailleurs, qu'on ne fait plus appel à des jazzmen pour enregistrer le boléro de Ravel. Toujours est-il que ce Tommy Dorsey, là, nous le retrouvons du temps de sa jeunesse, avec son frère Jimmy Dorsey, qui lui jouait du saxo alto et de la clarinette, dans un orchestre blanc, paradoxalement baptisé Cotton Pickers, et ça c'est pas très gentil, parce que le piqueur de coton, c'est un terme de dérision, et assez connoté raciste, hein. C'est pas terrible comme choix.
Oui, quand on traite un noir de piqueur de coton, c'est pas sympa. Hein.
Tu sais que notre chanteuse Carole Lee, avec les Dumoustiers, a toujours refusé de mettre au répertoire de l'orchestre tout morceau qui comportait dans le titre ou dans le vocal le mot piqueur de coton. Il n'y a rien eu à faire, jamais. Là, en fait, on est dans un des morceaux de la jeunesse de Tommy Dorsey, donc, et dans un des morceaux où il ressemble le plus à son modèle de l'époque, Jimmy Harrison.
Grandpa Street Blues.
Et le Rempart Street Blues, c'est une rue de la Nouvelle-Orléans, Rempart Street. Hein. Attention,
tradition, attention. Tradition.
Attention. Thank you. Voici maintenant un autre tromboniste, également très grand technicien, d'une pensée musicale au trombone tout à fait exceptionnelle, d'une très grande originalité. Mais on l'écoutera une autre fois jouer du trombone parce que là, dans cet orchestre-là, qui est d'ailleurs le sien, il est guitariste.
C'est Eddie Durham.
Eddie Durham était un homme charmant que nous avons eu l'occasion de rencontrer et qui avait sur le jazz une ligne de conduite totalement rectiligne.
Et il y a, dans son orchestre, un certain Buster Smith. Et c'est celui-là la rareté.
Oui, parce que ce Buster Smith a très peu enregistré. Il n'aurait d'ailleurs sans doute jamais été connu sans une histoire absolument abracadabrantesque.
Ce Buster Smith jouait de l'alto.
Très bon musicien, hein, parce qu'il fait partie des grands sous-estimés quand même, faut dire. Hein.
Tout à fait. Mais c'est pas par sa musique qu'il a été connu, mais par le fait que Charlie Parker en a parlé en disant qu'il était son inspirateur. Et alors du coup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et on a absolument cherché à retrouver ce Buster Smith, qui avait d'ailleurs plus ou moins disparu.
Oui, parce que, en fait, la critique est toujours acharnée dans ces théories que nous trouvons, pour notre part, assez fumeuses. S'était mis dans la tête qu'elle allait enfin découvrir le chaînon manquant entre le jazz et le bebop créé par Charlie Parker. Donc, on s'est jeté sur la trace de Buster Smith. On a eu beaucoup de mal, d'ailleurs. Et on l'a retrouvé au fin fond du Texas. Un des grands critiques et également qui avait ses entrées dans une marque de disques, est parti là-bas avec tout un matériel, a discuté avec Buster Smith et l'a fait enregistrer. Après quoi, il en a rapporté des disques qui sont, en ce qui concerne Buster Smith, du jazz pur et dur.
Ils ont été assez déçus finalement, parce qu'ils pensaient vraiment que ça allait être quelque chose de totalement hors des clous. Enfin, tout ce qu'on peut dire quand c'est décalé, déjanté, fusionnel, etc. Et puis non, c'était du jazz.
C'était du jazz et c'était pas du tout une sorte de mi-chair, mi-poisson situé entre le jazz et le bebop, ce qui illustre une fois de plus que le bebop est une musique originale à part et qui ne doit pas grand-chose au jazz lui-même. Nous ne le dirons jamais assez. En tout cas, voici Buster Smith dans ce petit orchestre d'Eddie Durham. De son prénom, Buster Smith s'appelait Henry, donc dans la discographie, il est connu sous le nom de Henry Smith. Et le morceau s'appelle, en toute simplicité,
Tapis volant, c'est-à-dire Magic Carpet. Thank you. Là, c'est Duke Ellington. Alors, on ne peut pas dire que Duke Ellington soit un musicien inconnu, n'est-ce pas?
Ah non.
Il est avec Ben Webster, qui n'est pas non plus un musicien inconnu.
Ah non, le grand saxophoniste ténor.
N'est-ce pas?
Oui, ça, c'est sûr.
Eh bien, c'est le morceau qui a une particularité. Ce morceau s'appelait au départ « Mauve », comme la couleur mauve.
Et là, on n'a vu que du bleu.
On l'a cherché partout, ce mauve. Jusqu'au jour...
Eh bien, jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que mauve n'existait pas.
C'est le soldat inconnu de la chanson.
Oui, c'est une sorte d'arlésienne. Ce morceau a été répertorié sous le nom de Mauve pour des raisons que je ne connais pas. Peut-être à la suite d'une édition hyper limitée que le critique qui en a parlé avait eu entre les mains avec un autre nom. Enfin, toujours est-il que ce Mauve ne figure dans aucune discographie.
Bref, cryptique.
Et pendant ce temps-là, sans savoir qu'il existait vraiment sous un autre nom, on le cherchait. Bien franchement, nous cherchons ce morceau depuis 30 ans.
Vous vous rendez compte?
Jusqu'au moment, comme tu disais tout à l'heure, où, dans le coin du détour d'une discographie comportant quelque chose comme 1 million de titres, nous nous sommes aperçus, en cherchant bien, que le morceau en question était en réalité...
Until Tonight.
Bah, évidemment, quand on dit « jusqu'à la nuit », on pense au crépuscule, qui peut être mauve. Mais là, quand même, c'est un peu...
Là, on recherche. Hein.
Ah, oui, là, c'est un peu tiré par
les cheveux. On a fait des recherches discographiques poussées.
Mais nous avons été récompensés. Car ce Mauve est un morceau où Ben Webster joue superbement et où il est non moins superbement accompagné par Duke Ellington. Changeons de planète, nous sommes dans le blues, du mauve au blues, nous voilà partis depuis le Mississippi jusqu'à Chicago sur les traces de...
Leroy Foster.
Leroy Foster, hein, ce nom ne vous dit peut-être rien du tout.
Il est chanteur.
chanteur-guitariste, profondément rural, comme était Big Bill Brunzi, comme était avant Blind Lemon Jefferson. Ce sont des gens de la campagne, montés à la ville pour gagner mieux leur vie en faisant leur musique, mais restés très proches des racines du blues.
Et la rareté,
C'est déjà d'entendre Leroy Foster, parce qu'il n'y a pas beaucoup de disques de Leroy Foster. Et à mon avis, Radio Marjorie est la première station de radio à diffuser un disque de Leroy Foster depuis 1904.
Rendez-vous compte!
Et quand je dis 1904...
Et alors attendez, il n'y a pas que Leroy Foster, il y a aussi les premiers pas enregistrés, on suppose que c'était dans les premières fois, d'un homme qui, lui, par contre, va devenir beaucoup plus célèbre, Muddy Waters, de son nom d'origine...
McKinley Morganfield.
Alors vous me direz, Muddy Waters, c'est pas terriblement séduisant, ça veut dire « aubouseuse ».
Oui, mais c'est l'affaire de famille.
Parce que c'était sa grand-mère qui l'avait surnommé comme ça, tellement le jeune McKinley se roulait dans la boue volontiers, vous voyez.
Ouais, avec des copains, tu sais ce que c'est, les flaques d'eau, la boue, les vêtements tachés partout, la grand-mère qui râle.
Pas contente, hein.
Viens ici, Muddy Waters, que je te mette une torgnole.
Eh bien, bref, ça lui est resté.
Mais il a choisi, sans doute il aimait beaucoup sa grand-mère, donc il a retenu l'idée. Mais à mon avis, comme tous ces gens-là étaient du Mississippi et se connaissaient entre eux depuis très jeunes, c'est pas du tout certain que le surnom n'ait pas été connu un peu plus loin que le village, et que quand on l'a vu arriver à Chicago, ah tiens, voilà Muddy Waters et sa guitare. Alors là, Leroy Foster, qui était donc la vedette de ce disque, s'accompagne à la guitare, il serait bon. Mais la partie rythmique est assurée par le jeune Muddy Waters, encore dans les utilités, et un contrebassiste. C'est tout, c'est du blues, et ça s'appelle...
Shady Blues Groove.
Le blues de l'ombre.
Wow.
I was just sitting here looking way down in Shady Grove. I was just sitting here just looking way down in Shady Grove. Oh, now but that's where they got my baby. People a long, long time ago. I believe I go down to the gypsy. I'm going to have my baby's fortune told. I believe I go down to the gypsy. Baby, I'm going to have your fortune told. Say that, Roy, you know you ain't nothing. Chat the devil living where you go. Well, all right now, man, I got it myself.
Le saxophoniste ténor Paul Gonzalves,
qui a beaucoup joué chez Ellington.
Et auparavant, chez Count Basie, quand il était tout jeune, parce qu'il a débuté très jeune chez Basie, qui disait de lui, c'est le saxophoniste ténor le plus doué que j'ai jamais eu dans mon orchestre. Alors quand on pense aux gens qui ont défilé chez Basie, c'est quand même impressionnant comme déclaration. Et il a atterri chez Ellington un peu après.
Vous me direz, mais il est très connu. Mais quelle est sa rareté à lui ?
La rareté du disque, c'est déjà que c'est le seul disque que Paul Gonsalves ait enregistré sous son nom avec une partie de l'orchestre Ellington.
Oui, parce qu'il y en avait qui le faisaient assez couramment, mais lui non.
Enfin, le seul disque, il a recommencé beaucoup plus tard. Oui. Mais là, c'est ses débuts, hein, donc chez Ellington. C'est le seul disque de l'époque et le petit orchestre s'appelait The Coronets. Mais Paul Gonsalves avait une autre caractéristique.
Figurez-vous qu'il pouvait s'endormir sur place dans la seconde où il le désirait.
Pour un oui ou pour un non, il s'endormait.
Si bien que, déjà, ses copains, quand par hasard il était bien fatigué sur scène, tout d'un coup, on voyait les yeux qui se fermaient tout doucement et les copains qui étaient sympas, s'ils aimaient bien Paul Gonsalves, lui donnaient un coup de coude quand il devait faire son solo.
C'était assez étonnant parce qu'il avait un saxophone ténor posé sur un stand, hein, comme tout le monde. D'ailleurs, son pupitre de big band, puisque c'était un big band. Et il faisait comme s'il embouchait le saxo ténor et en fait, il reposait sa tête avec les dents de devant posées sur le bec. Et là, il s'endormait. Un jour, son voisin Johnny Hodges lui a foutu le coup de coude rituel, mais pas au moment où il devait jouer. Et Gonsalves s'est levé d'un bond, s'est précipité au micro devant la scène et a commencé à jouer sur le morceau, mais c'est pas du tout à lui de le faire. Et ça a été un énorme gag dans l'orchestre.
Alors, il y a eu un autre gag, c'est que, bien sûr, il s'endormait aussi au café ou dans les avions.
Et au retour d'une tournée, l'orchestre arrive à New York, tout le monde descend. L'avion est tracté sous un hangar. Un peu après, le brave
nettoyeur,
balayeur arrive et il entend un bruit suspect. Et au fond de l'avion, c'est Paul Gonsalves
qui ronflait,
qui ne s'était pas du tout réveillé à l'atterrissage et qui était resté là. Et les copains l'avaient laissé dormir. Et il était là en train de ronfler depuis je ne sais pas combien de temps. C'était Paul Gonsalves. Mais ça ne l'empêchait pas, quand il était en état de veille, d'être un des saxophonistes les plus bouillonnants du couvercle que nous ayons connu.
Le voici donc dans The Happening.
The Happening, vous savez ce que ça veut dire ? Le Happening, c'est ce qui se passe. Ben voilà, il se passe qu'il y a un saxo ténor qui va jouer et qui s'appelle
Paul Gonsalves, et il est réveillé. Thank you.
Et nous voici avec Ray Charles. Pas très original de passer Ray Charles, hein. Mais...
C'est le morceau qui est original.
Oui, car le morceau est finalement uniquement connu pour avoir été un des grands disques de Louis Armstrong longtemps auparavant. Et Ray Charles s'est emparé de ce morceau et en a fait quelque chose de très différent et de superbe. Et ça, c'est une rareté, hein.
Oui, une telle interprétation différente.
Ouais, ouais.
Ça valait le coup qu'on vous la passe quand même.
Et le morceau s'appelle...
When your lover is gone.
Quand votre amour est parti.
Bouhou.
Quelle tristesse.
When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise. When your lover has gone, what lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering, like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering, like faded flowers. Life can't mean anything when you're
Pour terminer cette émission, voici un homme lui-même très rare. Les disques de Cecil Gant sont absolument introuvables.
Ils se comptent quasiment sur les doigts de la main.
Les exemplaires en circulation, oui.
Oui.
Ça, aucun doute. Il y a bien eu quelques rééditions pour collectionneurs, mais c'est très dur à trouver. Et nous avons mis la main sur un morceau que nous cherchons depuis longtemps, qui s'appelle... Ragout de hibou. Renseignement pris, nous ne traduirons pas davantage ce titre parce que là, on est dans l'incommensurablement intraduisible. Ça vaut mieux. Et même en latin, on ne vous le ferait pas. Bref, parlons de Cecil Gant. Cecil Gant est un pianiste de blues, chanteur de blues. Pour faire court, on pourrait l'inscrire dans la mouvance du fameux Leroy Carr. Et pour vous passer ce disque-là, nous ne prenons pas davantage de Gant.
Nashville, down on 4th Avenue. Have you ever been to Nashville, down on 4th Avenue? They got something new there. They call it Al Stew. Well, I've been to Chicago, points east, north and west. I've been to Chicago, points east, north and west. But the stew in Nashville, it really is the best. Yes, I know. Want some more? You can buy it in a city, county, ship, and town. You can buy it in any city, county, ship, and town. But you can't get no better in Nashville when the sun goes down. It
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.